C'est pas d'hier qu'on a des difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Le recrutement et la rétention, ça, c'est une autre chose aussi. Il faut l'attirer, la main-d'œuvre, mais il faut la retenir. C'est pas d'hier, mais on se rend compte que, comme bien des choses, ces difficultés ont été exacerbées par la pandémie de la COVID-19, les aides gouvernementales, entre autres. Mais c'est pas que ça. Comme je disais, ça fait, en tout cas ici, dans la vallée de la Gatineau, c'est pas d'hier qu'on peine à combler les postes disponibles. Et, pour nous en jaser, on a au bout du fil le président de l'Union des municipalités du Québec, maire de Gaspé, M. Daniel Côté. Bonjour.
Oui, bonjour.
Premièrement, M. Côté, vous êtes nouvellement en poste. On n'a jamais eu la chance de se parler encore. Donc, vous avez accédé il y a quelques semaines à la présidence de l'Union des municipalités du Québec. C'est quand même un grand défi, là.
Effectivement, c'est un grand défi, mais on s'y préparait depuis un certain temps. Donc, j'ai reçu la confiance de mes pairs, des 50 membres du conseil d'administration qui représentent des villes de toutes les tailles dans toutes les régions du Québec. Ils m'ont choisi, puis je suis bien fier de prendre ces chaussures-là, je dirais. Puis on va essayer de continuer de faire avancer l'Union et les intérêts de nos membres à la grandeur du Québec.
Eh bien, bienvenue officiellement. Et donc, je le disais tantôt, je suis pas dans le champ quand je dis que c'est pas d'hier, mais que ça a été exacerbé avec la pandémie, ces difficultés de recrutement au niveau du manque de main-d'œuvre en région, et je pense qu'à peu près toutes les régions au Québec ne sont pas épargnées, là.
Effectivement, c'est le cas chez vous, c'est le cas chez nous, et on est pratiquement les deux extrémités du Québec. Donc, c'est le cas un peu partout, effectivement. Et oui, la pandémie est venue exacerber la problématique pour différentes raisons. D'une part, je dirais, il y a eu quand même autant de départs à la retraite durant la pandémie qu'il y en avait avant la pandémie et qu'il y en aura après la pandémie. Donc, les départs à la retraite se poursuivent au même rythme. Par contre, on a moins de main-d'œuvre étrangère qui a pu entrer au pays dans la dernière année parce qu'évidemment, les frontières étaient fermées. Donc, on a eu accès, oui, quand même à des travailleurs étrangers temporaires pour le volet agricole, par exemple, etc. Par contre, il y a rentré beaucoup moins de travailleurs que ce qui était prévu. Il y avait une cible d'autour de 45 000 travailleurs immigrants qui devaient entrer au pays, au Québec, et on s'est retrouvé avec 25 000. Donc, un déficit de près de la moitié de la cible qu'on a habituellement. Donc, c'est certain qu'avec 20 000 travailleurs en moins, ça n'aide pas à combler les postes vacants. Là, présentement, on estime à 150 000 le nombre de postes vacants au Québec. C'est des données officielles là, qui viennent de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes.
Donc là, on comprend que si on ouvre les frontières, il y a déjà un pan de tout ça qui va se régler de par lui-même, mais on se rend compte aussi que le 150 000, c'est pas que l'ouverture des frontières qui va faire une différence. Comment on deal avec ça en bon français du côté de l'UMQ? C'est un gros dossier, là.
C'est un énorme dossier. L'enjeu, il est complexe. D'une part, je pense que la solution, elle est multiple. D'une part, c'est certain que s'il y a des programmes gouvernementaux pour soutenir parfois de la robotisation, parfois de l'innovation en entreprise pour diminuer la pression sur les besoins de main-d'œuvre, ça peut aider. Il y a plein de corps de métier qui n'ont aucune robotisation qui va pouvoir remplacer un humain si on pense aux préposés aux bénéficiaires ou si on pense aux gens qui travaillent dans des commerces de proximité. Il n'y a pas de robot puis il n'y a pas d'innovation qui peut remplacer bien des corps de métier. Donc, il faut attirer des travailleurs. Malheureusement, ou en tout cas, c'est un constat. Je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais au Québec, on n'a peut-être pas fait assez de bébés dans les 30 dernières années pour combler ces besoins de main-d'œuvre-là qui s'en venaient en conséquence du départ à la retraite des nombreuses personnes qu'on appelle les baby boomers. Donc, on se retrouve avec une pyramide des âges qui est inversée. Donc, on n'a pas le choix, si on veut continuer d'offrir des services à la population, de se retourner vers la main-d'œuvre étrangère. La fermeture des frontières est venue faire mal à ce recrutement-là. Là, il va y avoir une réouverture, mais est-ce que ce sera suffisant? Et comme je vous disais, les solutions sont peut-être multiples et c'est assez compliqué.
Pour les régions, le fait qu'on a mis la pédale dans le tapis du côté des gouvernements provinciaux et fédéraux, du côté de l'Internet, des branchements, ça, c'est, j'imagine, c'est une belle carte qu'on a dans notre manche. Si on veut attirer des gens de la ville, c'est sûr que le manque de main-d'œuvre se fait sentir partout, mais pour les régions, je sais que chez nous, on a un intérêt grandissant des gens de la ville à venir s'installer, mais ce qu'on dit, c'est, écoute, lorsque l'Internet sera rendu à mon chalet va peut-être devenir ma résidence principale, et là, ben après ça, ça attire des gens dans le coin qui vont venir travailler ici, et là, est-ce que vous pensez que ça pourrait être... En fait, comment vous voyez cet aspect-là?
C'est un aspect qui est drôlement intéressant. Les gens ont de plus en plus soif de grands espaces. Autant on avait vécu un mouvement d'urbanisation où les gens voulaient se rapprocher des paniers de services, je dirais, peut-être plus avantageux. Autant, là, avec la pandémie, on a senti un désir de se rapprocher des grands espaces. Donc, autant chez vous que chez nous, il y a des gens qui ont cette soif de déménager, mais encore faut-il leur offrir les services de base. Internet haute vitesse, c'est une façon de travailler à distance maintenant, pour en tout cas tout ce qui s'appelle employé de bureau ou dans les secteurs des technologies, etc. Les gens peuvent travailler à partir de nos régions, même si le siège social de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés sont dans les grands centres. Donc, ce type de dossier-là, effectivement, va favoriser une meilleure répartition, je dirais, de la main-d'œuvre sur le territoire. Ça vaut autant pour la main-d'œuvre qui est déjà présente au Québec que pour les nouveaux travailleurs qui pourraient s'installer, qui proviendraient d'un peu partout sur la planète et qui pourraient venir s'installer dans nos régions.
Et quel est le travail ou quelles sont les actions que pourrait poser l'UMQ pour faire progresser, pour améliorer la situation du manque de main-d'œuvre en région?
Je dirais que le premier item là-dessus, c'est que l'UMQ est quand même une force politique assez importante au Québec. Ouais. Donc, on se sert de cette force-là pour faire pression sur les paliers fédéral et provincial pour qu'ils améliorent leur programme de recrutement de main-d'œuvre étrangère. Il y a quand même beaucoup de lourdeur dans ce système-là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus adapté à la réalité terrain. Et quand on parle de réalité terrain, qui de mieux que le monde municipal qui est très proche du terrain pour alimenter les décisions gouvernementales lorsqu'ils vont prendre des décisions sur justement dans quel corps de métier on a besoin de travailleurs, dans quelle région, dans quelle municipalité on a besoin de travailleurs, ils pourraient effectivement se référer à nous pour prendre les meilleures décisions possibles, les plus calquées possibles sur la réalité du terrain. Donc, c'est un peu de main tendue qu'on leur offre. Et d'autre part, il y a une autre façon aussi qu'on a déjà eu de s'impliquer, là, que les réouvertures des frontières sont peut-être redevenues possibles. L'UMQ a déjà envoyé plusieurs de ses membres dans des délégations pour aller faire du recrutement de main-d'œuvre directement à l'étranger, dans des foires de l'emploi ou des trucs du genre, pour attirer de la main-d'œuvre étrangère au Québec. Donc, c'est le genre de trucs qu'on peut faire aussi en complémentarité avec tout ça, lorsque ça redeviendra possible.
Oui, et puis en complémentarité aussi avec toutes les petites actions qui sont posées par les centres d'emploi, les SADC dans les régions. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce même optique-là. Je voulais vous entendre sur une dernière chose. On va philosopher un petit peu, si vous voulez bien, M. Côté, parce que vous avez parlé tout à l'heure des baby-booms, le fait qu'on n'a pas fait assez d'enfants. Tu sais, ça, c'est intéressant. C'est la société a évolué comme ça au Québec. Et si on recule encore, puis là, vous allez voir, c'est très philosophique, là. On avait, avec le baby-boom, on a eu besoin de créer des emplois parce qu'on avait beaucoup plus de gens qui étaient sur le marché de l'emploi. Donc, pour éviter d'avoir des chômages épouvantables, des taux de chômage épouvantables, on a créé des jobs, fonction publique et tout. En fait, tout a grossi pour que tout le monde ait des jobs. Là, on est en rétrécissement un petit peu de la démographie. Donc, ça va nécessiter une réorganisation puis peut-être une coupure de postes. Ces postes-là qu'on a créés pour assurer de l'emploi à la population québécoise, si on a moins de population, peut-être, au lieu d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs, peut-être de régresser. Est-ce que ça, c'est une possibilité d'essayer de revoir les organisations de différentes façons pour essayer de diminuer nos besoins en main-d'œuvre? Donc, des usines qui fonctionnent à 200 personnes, justement, et qui avaient l'habitude de le faire parce qu'il y avait la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un gros chantier pour discuter de ça au Québec puis dire, est-ce que, dans certains corps de métier, comment on pourrait diminuer les besoins de main-d'œuvre pour éviter des pénuries de main-d'œuvre?
J'ai là avec une réponse philosophico-pratico-pratique.
Oui, allez-y.
Dans le fond, là, je pense que quand on parle d'usines, d'industrie manufacturière, etc., la réflexion qu'il devrait y avoir si on veut maintenir notre degré de productivité, ça va probablement être de se tourner vers des sources d'innovation ou de robotisation ou des trucs du genre. Par contre, il y a dans plein d'éléments, des entreprises de services ou bien dans le service public, les services de santé, d'éducation, les municipaux ou autres, où ça prend des humains pour offrir les services. Et dans ces cas-là, ça va devenir assez complexe parce que la population, je dirais la population plus vieillissante, va avoir besoin de services. Et dans le cas des services de santé, c'est documenté, là, elles ont besoin de plus de services. Donc, cette population-là va avoir besoin d'avoir des humains pour leur offrir des services. Donc, on ne peut pas parler de rétrécissement de population à l'heure où l'on se parle sans être capable d'offrir ces services-là aux gens. Donc, vous voyez, ça peut être assez complexe. Ça va prendre des gens dans les hôpitaux pour offrir les services à la population.
Dans nos écoles aussi.
Il n'y aura pas de rétrécissement de population prévisible avant quoi 20 ou 30 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les 20 ou 30 prochaines années? Ben, ça prend des gens. Et pour avoir des gens pour offrir des services, ben, il faut attirer de la nouvelle main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. On n'aura pas le choix. C'est un drôle de cercle, mais donc en philosophant un peu, on se rend bien compte que c'est assez complexe.
Non, effectivement, c'est pas une main stage. Puis comme je disais, il n'y a pas que l'UMQ, il y a plein de joueurs qui se penchent là-dessus et qui poussent ensemble. Ouais. Pour tenter de régler cette question-là. C'est quoi la prochaine étape du côté de l'UMQ dans ce dossier?
Mais de notre côté, ça va être de s'asseoir avec les gouvernements pour en fait, regarder en profondeur, c'est quoi les programmes, comment on pourrait améliorer les programmes, comment on pourrait être plus attractif pour attirer de la main-d'œuvre supplémentaire, pour offrir les services à nos populations. Bref, on va s'asseoir avec les gouvernements pour regarder tout ça. Puis nous, notre travail à la base, du côté des élus municipaux, là, ou au-delà de l'UMQ, là, les élus que nous sommes, c'est de continuer de travailler sur l'attractivité de nos milieux de vie. Quand nos milieux sont attirants, évidemment, ça favorise l'attraction de cette main-d'œuvre-là sur nos territoires pour continuer d'offrir les meilleurs services possibles à nos collectifs.
Ouais, c'est exact. Eh bien, Daniel Côté, vous êtes maire de Gaspé et nouvellement président de l'Union des municipalités du Québec. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Et bonne chance, hein, collectivement, on gagne à régler ces enjeux de main-d'œuvre-là. Donc, je vous souhaite bonne chance pour y arriver.
Merci beaucoup.
Dans un instant, ce sont les nouvelles présentées par Cogeco. Et au retour, on s'entretient avec un homme d'affaires de la région concernant la récente vague de vandalisme qui a eu lieu au centre-ville. Et par la suite, on s'entretiendra avec Matt Lang, artiste New Country de la région, qui a lancé aujourd'hui là, un nouveau vidéoclip pour la chanson « In a Bar ». Restez des nôtres.